Chers amis, permettez-moi de vous dire la joie qui est la mienne d'être avec vous. La dernière fois que j'étais en visite, vous étiez encore à la rue Guynemer, et c'était Samuel Pereira qui était votre pasteur. Ça commence à dater un petit peu. Le texte que nous lisons ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et nous parle d'un récit de guérison. Un des seuls récits collectifs de guérison. Il s'agit de 10 lépreux qui viennent voir Jésus et qui sont guéris par lui. Donc Luc au chapitre 17, à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, il s'agit de Jésus, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les 9 autres ? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ?» Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi et va. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Frères et sœurs, nous allons parler ce matin de guérison. Je crois à la puissance de guérison de notre Sauveur. Pour une raison assez simple. D'abord parce que, comme dans ce texte, elle est largement attestée dans les évangiles, mais aussi parce qu'elle est amplement confirmée, encore aujourd'hui, par les miracles qui se produisent. Alors, je n'ai pas été le témoin direct de guérison, j'ai été le témoin direct de délivrance. Mais j'ai recueilli et lu un certain nombre de récits suffisamment clairs pour ne pas douter de la puissance de notre Seigneur. Et j'aimerais vous raconter une de ces histoires qui se passe loin d'ici, au Népal, dans la région de l'Himalaya. Les églises ont été implantées relativement récemment, environ dans les années 50. Et l'un des tout premiers chrétiens, du nom de Noah, avec un ami, s'est mis en route depuis la ville de Pokhara. Et en chemin, ils ont rencontré un homme qui semblait très triste, qui avait avec lui son doko, c'est-à-dire un panier en osier dans lequel il avait ramassé des plantes médicinales dans la jungle. Et comme c'est de coutume au Népal, ils se sont adressés à lui pour prendre de ses nouvelles, même s'ils ne le connaissaient pas. Cet homme s'appelle Kom Bahadur Tamang. Et ils lui ont demandé comment allait la famille, et cet homme a répondu, voyant leur intérêt, qu'il vivait des choses très difficiles. Son fils était à l'agonie, l'un de ses fils était à l'agonie, et il craignait même que cette maladie s'étende à son épouse et à sa fille. Noah lui a répondu, parce qu'il avait fait part du fait qu'il n'avait pas l'argent pour aller voir le médecin, lui a répondu, mais tu sais, je n'ai pas d'argent, mais le Dieu que je sers peut intervenir. Et donc, le lendemain, Noah est allé à Gakok, dans la petite cabane qui sert de maison à cet homme et à sa famille. Et il a trouvé là un jeune homme décharné, qui ne pouvait plus manger, qui souffrait atrocement de l'estomac. Et Noah, curieusement, n'a pas d'abord prié pour la guérison. Il a d'abord annoncé l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, je vous lis, il a posé les mains sur le malade, a prié Jésus de lui faire recouvrir la santé. Et tandis qu'il priait, toutes les terribles douleurs quittèrent le corps du malade pour ne plus jamais revenir. Quand Noah eut terminé de prier, ce jeune homme pouvait s'asseoir, commencer à manger une soupe claire faite de farine de maïs, puis il a pu peu à peu reprendre de la nourriture. Il est devenu de plus en plus fort, jusqu'à se remettre complètement. Il est même devenu soldat Gurkha de l'armée indienne par la suite. Si je vous lis cette histoire que vous trouvez dans un livre que je vous recommande, « Réveil dans l'Himalaya », c'est parce qu'en fait, cette guérison a participé à l'expansion de l'évangile dans cette région. Oui, le Seigneur peut guérir. Mais permettez-moi d'ajouter avec empressement que je ne crois pas à la guérison en soi d'abord, parce qu'elle n'est pas une fin, mais un moyen. Et ensuite, parce que la guérison peut être le fait du diable et de ces démons qui tentent ainsi de séduire même les élus, nous dit l'Écriture. Non, je crois au Sauveur qui guérit, qui manifeste par ce moyen son amour, délivre un message tant aux bénéficiaires qu'aux témoins et bouscule par ses interventions miraculeuses les fausses certitudes de ses créatures. Et c'est exactement, mes amis, ce que je pense discerner dans ce récit des 10 lépreux qui fait souvent le bonheur des écoles du dimanche. Il y a là bien plus qu'une histoire de guérison, il y a une vraie leçon de vie. Mais une leçon de vie éternelle. Ce qui signifie qu'il nous faut méditer ce passage. Et je vous propose de le méditer en 3 temps, sous l'aspect suivant. La guérison n'est pas le fin mot de l'histoire, de cette histoire, vous allez voir. Deuxièmement, la guérison vise la relation à Dieu. Et troisièmement, la guérison n'est qu'une étape vers quelque chose de plus grand qui s'appelle le salut. Alors la guérison n'est pas le fin mot de l'histoire. Avez-vous remarqué que dans notre texte, la guérison des 10 lépreux n'est pas au centre du récit? Pourtant, il y aurait beaucoup de raisons pour l'évangéliste Luc de s'attarder longuement sur la guérison. D'abord parce que la lèpre, dont on ne pense pas qu'elle corresponde tout à fait à la lèpre, ce que nous appelons lèpre aujourd'hui, la lèpre est une affection aux conséquences sociales et personnelles, et religieuses d'ailleurs, terribles. Le troisième livre de la Torah, le Lévitique, consacre 2 longs chapitres à ce mal, qu'on pense être surtout des affections de la peau qui sont contagieuses, et fait du lépreux un véritable paria. Écoutez. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la partie inférieure du visage et criera « impur, impur ». Étant impur, il habitera à l'écart à l'extérieur du camp. C'est pourquoi, mes amis, en fait, les lépreux ne s'approchent pas de Jésus, mais l'interpellent à distance. Deuxième raison qui pourrait nous amener l'évangéliste Luc à s'attarder sur le miracle, c'est qu'il s'agit d'une guérison à distance, alors que dans un cas similaire, un lépreux aussi, Jésus le touche, ce qui est assez audacieux, vu la contagiosité de la maladie. Ici, il n'y a pas de contact physique entre Jésus et les malades, non. Il les envoie simplement se montrer au sacrificateur, et c'est alors qu'en chemin, la guérison intervient. Quelle puissance ! Enfin, parce qu'il s'agit ici d'une guérison collective, 10 fois répétée. Et sauf erreur de ma part, Il n'y a pas d'autre récit de guérison collective dans les évangiles. Ces trois raisons auraient pu conduire l'auteur de l'évangile à mettre l'accent sur l'émerveillement face à la puissance du Christ. Or, avez-vous remarqué ce qui prédomine dans ce texte ? Ce n'est pas l'émerveillement, c'est la déception de Jésus. De ne voir revenir à lui qu'un seul des 10. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Jésus, ce qui compte le plus, ce n'est pas la guérison. Sinon, il aurait dit « formidable ». Cette simple constatation, mes amis, résonne comme un avertissement à notre génération qui fait de la recherche du bien-être, sous toutes ses formes, y compris religieuses, le sens ultime de l'existence. Dieu répond au moins en partie dans sa grâce à ce besoin en accordant guérison physique, restauration intérieure, joie d'une communion nouvelle et fraternelle. Mais en fait, tout cela est peu de choses comparé à ce que Dieu veut pour nous. Et mes amis, Dieu est plus grand que toutes les guérisons qu'il pourrait nous donner. Parce que le donateur vaut plus que les dons. Vous savez, des fois, à Noël, on est un peu déçu quand on offre à son petit-fils ou à sa petite-fille un jouet, parce qu'ils oublient très vite le donateur. C'est le jouet qui compte. La guérison n'est pas le fin mot de l'histoire, de notre histoire. Et la guérison vise la relation à Dieu. Jésus a en vue plus que la guérison des lépreux. Tout le récit témoigne d'une volonté plus profonde de la part du Seigneur. Sa réponse à l'appel des lépreux, tout d'abord, comme à son habitude, Jésus ne guérit pas d'un coup de baguette magique. Il invite les lépreux à une démarche volontaire et soumise. Volontaire parce qu'il exige, elle exige qu'ils agissent avant d'être guéris. Il faut bien qu'ils aillent vers les sacrificateurs et alors seulement la guérison interviendra. Et soumise parce qu'elle suppose qu'ils obéissent et aille effectivement voir les sacrificateurs comme Jésus le demande. À bien y réfléchir, la pédagogie de Jésus est proprement géniale, puisqu'elle joint la foi et la loi. L'engagement de la foi qui se met en route sans voir encore le résultat, et l'obéissance à la loi qui se soumet aux prescriptions de l'Ancien Testament. Il est ainsi évident que Jésus fait passer un message à ses lépreux tout en répondant à leur attente. Deuxième élément, sa réaction à l'ingratitude ensuite. Sa déception, la déception de Jésus face au retour du seul Samaritain est hautement significative. Il attendait autre chose des bénéficiaires de son intervention. Ce qu'il loue chez l'homme qui se prosterne à ses pieds, c'est en quelque sorte son retour à Dieu. Il me semble qu'il y a dans cette attitude tout un enseignement. Avez-vous bien noté que le Samaritain n'a apparemment pas obéi jusqu'au bout à l'injonction du Seigneur ? Alors, est-ce qu'il y était soumis en tant que Samaritain ? On peut se poser la question. Je gage que oui. Il devait aussi aller se montrer au sacrificateur s'il voulait pouvoir déambuler parmi les Juifs. Il est parti avec ses 9 compagnons d'infortune pour se montrer au sacrificateur en croyant à la parole de Jésus. Et voilà qu'en chemin, il est guéri. Extraordinaire miracle, fantastique changement de vie. Alors une stricte obéissance à la lettre de la parole du Christ aurait dû le conduire d'abord devant les sacrificateurs pour se soumettre à leur examen. Et associé à cet examen, il y avait de longues prescriptions rituelles qui duraient plusieurs jours. Or, il n'écoute que son cœur pour revenir dire au Seigneur de la loi toute sa reconnaissance. Mes amis, dans son attitude, il n'y a pas de transgression à mon sens, mais une compréhension profonde de l'esprit de la loi qui le renvoie au Christ souverain. Je ne suis pas sûr qu'il ait une claire conscience des choses qui se jouent, parce qu'il n'est pas nourri en tant que samaritain par l'espérance messianique d'Israël. Il me fait en fait penser à ce païen dont Paul dit qu'il fait naturellement ce que prescrit la loi. L'accueil que Jésus fait à son retour montre que la guérison accordée était en fait une main tendue à l'instauration d'une relation nouvelle avec Dieu. Rester à la guérison, comme l'ont fait les 9 autres lépreux, c'est rater l'essentiel, la vie même offerte par le Seigneur. Là encore, il y a matière à réfléchir pour nos propres vies. Vous savez, les 9 lépreux ne sont peut-être pas les ingrats que l'on croit. Ils ont répondu à l'invitation du Seigneur, ils ont été guéris, ils ont sans aucun doute observé la loi en allant se montrer au sacrificateur. Ils sont donc religieux et sages. Mais, et c'est là la difficulté, ils en sont restés à la loi. Alors que la loi les renvoie à la foi, la loi qui ne fait que constater leur état d'impureté ou de purification en réponse à la foi, et la foi devrait les ramener au maître qui l'a inspiré, au Seigneur lui-même. Eh bien, mes amis, chaque fois que nous sommes touchés par la grâce de Dieu et que, dans la suite, nous n'en restons qu'à l'observation de la loi sans aller à l'adoration de la foi, nous repoussons en pratique la main tendue du Seigneur qui nous cherche. Et nous sommes un peu comme ces lépreux. Nous voulons bien du guérisseur, mais du sauveur. Un peu moins, parce que ça engage. La guérison, voyez-vous, n'est pas le fin mot de cette histoire. La guérison ici vise la relation à Dieu, et la guérison est une étape vers le salut. Les paroles finales de Jésus sont claires, significatives. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ils indiquent ces mots que la relation instaurée par la guérison, le retour à Dieu, a un seul but précis, le salut. Ce que le Seigneur veut, mes amis, ce n'est pas la guérison du corps seulement, mais aussi celle du cœur. Ce n'est pas le recul temporaire de la mort, dont la maladie est une petite expression. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est la victoire définitive sur la mort par la régénération et l'espérance de la résurrection. Des choses remarquables, c'est à l'étranger du groupe que Jésus accorde le salut. Comme vous le savez sûrement, les Samaritains sont méprisés par les Juifs en raison de leur impureté raciale et religieuse. C'est un peu des métisses. On ne sait pas trop quoi en faire. Vous savez, ces cousins avec lesquels ils nous ressemblent un peu, mais en même temps un peu trop. Et du coup, on a plus de mal avec eux qu'avec les vrais étrangers. Hein ? Seule une autre impureté que raciale et religieuse, celle de la lèpre, a réuni 9 juifs et un samaritain. Et de tous ces lépreux, seul celui qui n'appartient pas au peuple de Dieu comprend et accueille l'amour du Sauveur. C'est trop gros pour être fortuit. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, ça veut dire que la naissance n'est en rien déterminante en matière du salut. Ce n'est pas parce que vos parents sont chrétiens que vous l'êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une nation chrétienne que vous êtes de bons chrétiens. Le vrai juif n'est pas celui qui en a les apparences, nous dit l'Écriture. La deuxième chose que nous apprend cette histoire, c'est que l'observation de la loi est certes nécessaire, mais elle est tout à fait insuffisante pour être sauvé. La vraie circoncision, dit l'Écriture, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et enfin, la troisième chose que nous dit cette histoire, c'est que la foi qui sauve est accessible à tous, même aux Samaritains. Car elle ne repose nullement sur les privilèges et les mérites de la personne qui l'exprime, mais sur la personne et l'œuvre du Christ qui l'inspire. Je répète, la foi qui sauve est accessible à tous, car elle ne repose pas sur les privilèges et les mérites de la personne qui l'exprime, mais sur la personne et sur l'œuvre du Christ qui l'inspire. Et c'est une vraie bonne nouvelle. Mais c'est aussi un sérieux avertissement à l'encontre de nos fausses certitudes. Et nous en avons. Le salut, nous dit cette histoire, n'est pas garanti par la naissance. Le salut n'est pas garanti non plus par la connaissance. Le salut n'est pas garanti par l'obéissance. Le salut n'est pas garanti par les traditions, mais par Jésus seul, qui veut pour nous une vie entièrement nouvelle. Alors arrêtons de dire oui au guérisseur, au réparateur des brèches, au consolateur, et dès que notre besoin est satisfait, de laisser de côté le Sauveur à sa déception. Est-ce que vous avez perçu, il est triste le Seigneur? Il est triste. Mes amis, le Seigneur a payé de sa vie pour nous purifier de la lèpre et du péché. Et il attend que nous revenions à lui pour lui offrir nos vies entières en reconnaissance pour sa délivrance. Alors, je ne vous ai pas lu la fin de l'histoire, mais je vais vous la lire pour vous montrer la difficulté. Le moment où son fils mangea la soupe, je vous parle de l'histoire du Népal, est l'instant clé de la vie de Kom Bahadur Tamang, le père. Instant où l'espoir triompha d'un désespoir qui grandissait de jour en jour. Il comprit que l'amour de Jésus pouvait renverser la peur des anciens dieux et il jeta l'idole qui lui restait. Elle n'aurait plus de pouvoir sur lui. Je décidai, ajouta Locke, c'est en fait celui qui raconte l'histoire, parce qu'il est à l'origine du réveil dans l'Himalaya, le frère de celui qui a été guéri, je décidai moi aussi, je croirai désormais en Jésus, car j'avais la preuve de sa réalité et de son amour. Il était plus grand et plus extraordinaire que n'importe quel dieu de la montagne. David Mukia, le premier pasteur chrétien du Népal, baptisa mon père et par la suite, je fus moi aussi baptisé. Mais là vient la fin de l'histoire. Mon frère crut également pendant un temps, mais après avoir intégré l'armée et épousé la fille d'un lama, il retourna à notre ancienne religion. En revanche, pour mon père et moi-même, il ne devait pas y avoir de retour en arrière. Désormais, il n'y avait pour nous que le Dieu de l'amour. Il ne faut pas dire simplement oui au Seigneur qui nous guérit, mais aussi au Sauveur qui nous transforme. Que le Seigneur nous conduise dans ce sens. Je vous invite à la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, de t'être révélé à nous de bien des manières. Pour certains d'ailleurs, y compris, je pense, dans cette communauté, par des miracles, par des concours de circonstances tout à fait inédits, parfois par des convictions intérieures très fortes. Et pourtant, Seigneur, malgré le soin que tu as pris à nous appeler, il nous arrive de nous détourner, d'oublier que nous te devons tout, que nos vies ne nous appartiennent plus, mais qu'elles sont tiennes. Accorde à mes frères et à mes sœurs, accorde à la communauté, accorde-nous tous, y compris à moi, le souvenir de telle sorte que nous ne nous éloignons pas de toi, mais que nous te glorifions pour tout ce que tu as fait. En Jésus. Amen.